Reconnaissons une fois de plus qui tu es pour nous, à savoir celui qui nous a appelés à l'existence, celui qui nous a fait à ton image et à ta ressemblance. Une fois de plus, Seigneur, c'est devant toi aussi celui qui nous a rachetés, celui qui nous a régénérés, qui nous a restaurés moralement et spirituellement parlant, que nous sommes là, ô Dieu, afin de recevoir de toi ce que nous attendons le plus, à savoir ta parole, ta pensée. Car notre foi, Seigneur, cette capacité à marcher avec toi, cette capacité à interagir avec toi, Seigneur, dépend, et c'est de manière inéluctable, de notre attitude vis-à-vis de ta parole, de l'accueil que nous lui réservons à chaque fois que tu nous la donnes. Parle-nous ce matin, fais-nous du bien par ta parole. Parle-nous ce matin, Seigneur, et nourris notre foi. Aide-nous à grandir, Seigneur, dans la connaissance de ta personne, à grandir dans notre marche, à grandir, ô Dieu, pour pouvoir devenir mature, Seigneur, et te ressembler en toutes choses. Ta parole est au-delà de toute compréhension humaine. Ta parole est au-delà de toute intelligence, si grande soit-elle. Et pour cela, nous avons besoin de ton Saint-Esprit pour pouvoir, Seigneur, la recevoir, l'assimiler, pour finalement la mettre en pratique dans notre vie. C'est pourquoi je te prie, Seigneur, de poser ta main sur notre intelligence pour la raviver, pour la rendre capable, Seigneur, de saisir tout ce qui va venir de toi. Bénis également ton serviteur chargé de la proclamer, de la partager à ton peuple. Oui, bénis ces instants, ces moments précieux, ces moments uniques, ces moments glorieux. Parle-nous, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Bien, gloire au Seigneur, nous voulons lui dire merci pour ce moment que nous venons de passer dans sa présence, à le louer, à l'adorer, à l'encenser avec l'expression de nos cœurs, avec les paroles de nos bouches. Le moment arrive maintenant de nous taire à notre tour pour que lui nous parle, pour que lui puisse nous faire du bien par sa parole. Gloire au Seigneur. Je voudrais aujourd'hui vous amener à la rencontre d'un homme que nous trouvons dans la parole de Dieu, qui un jour a rencontré le Seigneur comme vous et moi, qui un jour a expérimenté la nouvelle vie en Christ. Et à partir de ce moment-là, cet homme a commencé sa marche avec Dieu et sa marche avec le Seigneur va être caractérisée par quelque chose de singulier. Sa marche va être caractérisée par ce que le Seigneur attend de chacun de nous, à savoir l'amour. Vous devinez qu'aujourd'hui, nous allons parler un tout petit peu de l'amour. L'amour comme étant la caractéristique essentielle de tout enfant de Dieu, de tout chrétien. Cet homme n'est autre que Philémon. L'apôtre Paul lui a adressé une épître qui porte son nom. Et plus tard, le Saint-Esprit jugeait bon que cette lettre que Paul avait écrite à Philémon, un frère des Colosses, eh bien, puisse figurer dans le canon des livres que nous reconnaissons comme étant inspirés et par conséquent capables de réguler notre foi, capables de nous inspirer sur le plan moral, capables de nous donner tout ce dont nous avons besoin, tous ces nutriments spirituels dont nous avons besoin pour aller de l'avant. Pour ceux qui ne sont pas familiers avec la Bible, sachez que Philémon, c'est juste avant l'Épître aux Hébreux. Il n'y a qu'un seul chapitre. Nous allons donc lire le chapitre premier et ce, le 12, oui, le chapitre premier à partir du premier verset jusqu'au verset 12. Paul, prisonnier pour le Christ Jésus et le frère Timothée, à Philémon, notre bien-aimé compagnon d'œuvre, à Appia, notre sœur, et à Archippe, notre compagnon de combat, et à l'Église qui est dans ta maison. Que la grâce et la paix vous soient de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Je rends continuellement grâce à mon Dieu en faisant mention de toi dans mes prières, car j'entends parler de l'amour et de la foi dont tu fais preuve envers le Seigneur Jésus et pour tous les saints. Je lui demande que la communion de ta foi devienne agissante et que tu reconnaisses tout ce qui pour nous est le bien en vue de Christ. J'ai eu en effet beaucoup de joie et de consolation à cause de ton amour, car par toi, frère, le cœur des saints a été tranquillisé. C'est pourquoi, bien que j'aie en Christ beaucoup de liberté pour te prescrire ce qui convient, j'aime mieux te prier au nom de l'amour, tel que je suis, moi Paul, un vieillard et de plus maintenant prisonnier pour le Christ Jésus. Je te prie pour mon enfant que j'ai engendré dans les chaînes, Onésime. Autrefois, il t'a été inutile, mais maintenant, il te sera bien utile à toi comme à moi. Paul est en train de jouer sur un jeu de mots entre Onésime, qui veut dire en grec utile, donc et inutile. Donc, autrefois, il t'a été inutile, mais maintenant, il te sera bien utile à toi comme à moi. Je te le renvoie, lui qui est une partie de moi-même. Gloire au Seigneur. Amen. Nous allons parler un tout petit peu de l'amour. C'est le thème, je dirais le plus grand thème de la parole de Dieu. L'amour, nous le savons tous, est l'oxygène du royaume de Dieu. S'il y a quelque chose qui singularise le règne du Christ, s'il y a une qualité, mes amis, qui est mise en valeur à travers toute l'Écriture sainte, eh bien, concernant le Dieu de la Bible, notre Créateur, mais aussi notre Rédempteur en Christ, c'est bien l'amour. L'amour. C'est l'oxygène. Et comme vous le savez, dans notre monde physique, s'il n'y a pas d'oxygène, eh bien, c'est la mort qui s'ensuit. Il en est de même dans le royaume de Dieu. Nous avons besoin d'oxygène. Et l'amour est justement cet oxygène dont les enfants de Dieu ont besoin. Paul nous parle de trois grandes vertus du christianisme. Ce que certains théologiens appellent les vertus théologales. Trois grandes vertus. Dans 1 Corinthiens 13, ce chapitre qu'il consacre à l'amour, une ode à l'amour, eh bien, l'apôtre verset 13 nous dit « Maintenant donc ces trois choses demeurent, la foi, l'espérance et l'amour. » Et il ajoute « Mais la plus grande de toutes ces choses, c'est bien l'amour. » Gloire au Seigneur. Trois vertus du christianisme. Trois vertus. Mais parmi ces trois vertus, il y en a une qui est la vertu par excellence, à savoir l'amour. Gloire au Seigneur. C'est la plus grande, c'est la plus noble. C'est la seule qui va demeurer alors que tout passera. Eh oui, quand nous serons dans son ciel de gloire, eh bien nous n'aurons plus besoin de foi, puisque nous le verrons tel qu'il est, après avoir été transformé de manière parfaite, comme il est. Nous le verrons face à face, alléluia. Et nous l'adorerons de manière parfaite. Et à ce moment-là, nous n'aurons plus besoin de foi. Donc nous avons besoin de foi tant que nous sommes sur cette chair et dans ce corps. Puisque ce corps est un obstacle qui nous empêche de voir comme il faut le Seigneur notre Dieu. L'espérance, mais elle passera, puisque lorsque nous serons avec lui, ben, il n'y aura plus d'espérance. C'est lui la base, c'est lui le soumassement de notre espérance. Mais la seule chose qui va rester, c'est l'amour, parce que Dieu est amour. Alléluia, gloire au Seigneur. C'est donc la plus grande de toutes les qualités humaines et un attribut du Dieu de la Bible. Et cet amour-là, tel que nous le trouvons dans la parole de Dieu, est un amour qui se manifeste, qui se traduit par des actes concrets et non pas quelque chose d'idéal, d'idéaliste, non pas un amour platonique, théorique, mais plutôt un amour qui s'exprime, gloire au Seigneur, qui se manifeste par un service généreux, par un service, par une approche marquée par la générosité envers les autres, un amour qui nous amène à avoir à cœur constamment et surtout les biens, le bien des autres, et non pas rester centré sur soi-même, très narcissique, très égocentrique, vous voyez, mais plutôt rester ouvert et sensible aux besoins des autres. L'amour, on en parle tellement, partout où on passe, on entend de gens se dire « je t'aime mon amour, je t'aime ma carotte ». Voyez, l'amour, tous les grands chansonniers en ont fait leur thème de préférence, de prédilection. Un de leurs a même dit qu'on ne peut pas vivre sans amour, en effet. Mais cet amour tel que nous le trouvons dans le monde est une caricature, une parodie du véritable amour tel qu'il nous est révélé à travers l'Écriture sainte, et ce, dans la vie et dans la personne de Jésus-Christ. Gloire à Dieu. Et nous avons dans le passage que nous venons de lire quelques caractéristiques essentielles de tout enfant de Dieu. Caractéristiques, eh bien, qui ont fait connaître Philémon au-delà de sa ville des Colosses. Caractéristiques qui ont fait de cet homme, eh bien, un témoin vivant, en son temps évidemment, de la présence et de la parole du Christ. Nous sommes des disciples du Seigneur, et nous devrions être caractérisés avant toute chose par l'amour. C'est une caractéristique essentielle qui devrait, mes amis, faire partie de la priorité de notre vie. Nous devrions être plus reconnus par les actes, par le geste d'amour que nous posons, plus que toute autre chose. Voyez, nous sommes des disciples de Jésus, nous avons une vocation. La Bible, et c'est le Seigneur lui-même qui en parle concernant ses enfants, il dit dans le sermon sur la montagne au chapitre 5 de Matthieu, « Vous êtes le sel de la terre, vous êtes la lumière du monde. » N'est-ce pas? Et Philémon a été un véritable, ou le véritable sel dans son époque, une véritable lumière. Il a éclairé tous ceux qui sont passés par les bien-aimés, évidemment, qui sont passés par la ville de Colosse. Il a brillé par tous ses actes de générosité, tous ses actes d'hospitalité, tout cet amour altruiste qu'il a accompagné. Et gloire au Seigneur. En cela, nous pouvons dire qu'il a été véritablement le sel de la terre, la lumière du monde. Et vous le savez tous, et le Seigneur le dit lui-même, le sel est sel tant qu'il a sa saveur. Dès lors qu'il perd de sa saveur, alors ce sel-là, tout en étant sel, il ne sert plus à rien. Si ce n'est qu'à être jeté, foulé dehors, afin d'être piétiné aux pieds par les hommes. Donc, à quoi sert le sel sans saveur? Il ne sert à rien. La lumière, c'est la même chose. La lumière joue son rôle lorsqu'elle éclaire, lorsqu'elle brille, lorsqu'elle chasse les ténèbres. Mais dites-moi, à quoi servirait une lampe qui n'éclairerait plus ou qu'on aurait allumée et cachée sous le boisseau ou en dessous de la table? Eh bien, cette lampe ne servirait à rien. Il en est de même pour nous, mes amis. En tant que disciples de Jésus, eh bien, nous sommes appelés à être caractérisés d'abord et avant tout par l'amour. Voyez-vous, c'est l'amour, et l'amour seul, qui va faire de nous, mes amis, des véritables disciples de Jésus. Et Philémon a manifesté pleinement sa vraie nature des disciples de Jésus par l'amour qu'il a manifesté tout autour de lui. Cet amour qui a été connu par les bien-aimés en son temps, par tous ceux qui passaient par la ville des Colosses, tous pouvaient dire à l'unanimité que Philémon aimait véritablement les bien-aimés. Cet homme, ce frère bien-aimé en Christ, va marquer sa génération, va marquer son temps par sa manière d'être, par sa manière, eh bien, de marcher avec le Seigneur, par, en d'autres mots, l'amour qu'il portait aux autres. Alléluia. On ne parle pas beaucoup de lui. Une petite épître lui est consacrée. Et pourtant, quel témoignage, mais aussi quelle interpellation pour nous qui vivons dans un monde marqué de plus en plus par l'égoïsme, dans un monde égotique, dans un monde où, eh bien, l'amour est devenu simplement un concept comme on en trouve de plus en plus. Les gens se disent « je t'aime », mais en réalité, ce n'est que pour avoir un bénéfice ou un intérêt quelconque. Nous parlons du véritable amour, celui que nous recevons de la part de Dieu. Je reviendrai là-dessus. Donc, il a marqué son temps par l'amour. Et la Bible lui rend un vibrant hommage, un hommage élogieux, voyez-vous. Et Paul va se donner la peine de lui écrire et de l'encourager. Il va revenir sur ce qu'il était véritablement, une bénédiction, une sorte de tranquillisant pour tous les bien-aimés de Colosse. Alléluia. Mais aussi pour tous ceux qui passaient par la ville de Colosse où il habitait. Il faut savoir que cet homme était un homme riche. C'était un propriétaire terrien, un homme fortuné, un homme qui avait une vie aisée. Donc ce n'était pas quelqu'un qui se trouvait au bas de l'échelle, un homme qui n'avait rien, pas du tout. Il avait beaucoup de moyens. Voyez, il s'est converti au Seigneur et il a tout de suite compris la nécessité de pouvoir non seulement consacrer sa vie à Dieu, mais consacrer également tous les biens qu'il avait. Alléluia. Il avait compris une chose, c'est que la meilleure façon d'investir ce que nous avons, eh bien, c'est de l'investir dans le royaume de Dieu, comme nous allons le voir. Donc, malgré sa fortune, il a été un témoin. Voyez-vous, la richesse ne devrait pas être un handicap, un obstacle pour quelqu'un d'être généreux, d'être hospitalier et de suivre Jésus comme il faut. C'est vrai, le Seigneur lui-même l'a dit, qu'il est beaucoup plus facile à un chameau de passer à travers le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Mais ceux qui y sont entrés, parmi ceux qui sont entrés, il y en a qui ont compris la nécessité d'investir leurs biens matériels, leurs biens financiers, eh bien, en les transformant en de biens spirituels. Et Philémon l'avait compris. Et ceci va le caractériser. Et ceci va faire sa renommée. Eh oui, puissions-nous être reconnus par des gestes d'amour que nous posons, et non pas par une vie marquée par l'arnaque, par la tromperie, par le mensonge. Voyez, chacun de nous traîne une certaine renommée, une certaine réputation. Voyez, il y a des gens, et ça c'est une dame qui m'avait partagé cela, puisqu'elle-même avait hélas mordu à l'hameçon de cet homme-là, un homme caractérisé par son penchant, par sa propension à séduire que les femmes mariées. Terrible, hein? Cet homme-là, m'avait-il dit, hein, eh bien, pouvait voir passer un top modèle à la taille de la guêpe ou de la libellule. Il pouvait voir une belle femme. Dès lors que celle-ci était célibataire, eh ben, ça ne lui disait absolument rien. Voyez. Il avait donc la réputation de ne courir qu'après les femmes d'autrui. Et dès qu'il voyait une femme passer et qu'il apprenait que c'est une femme d'autrui, son cœur se mettait à battre la chamade. Et il se mettait à avaler de la salive à une vitesse d'enfer. Voyez. Il devenait comme de la limaille, hein, attirée par la limaille de fer attirée par un aimant. Il y avait là une force qui l'attirait. Et il ne courait qu'après les femmes d'autrui. Quelle drôle, quelle terrible réputation. D'autres sont connus par le fait qu'ils ont toujours été des grands escrocs. Même des escrocs sociaux. Voyez. D'autres connus par tel ou tel autre trait de caractère, des gens violents. Voyez. Il ne faut jamais se hasarder dans leur parage. Lorsque la colère les pique, ils détruisent tout, ils arrachent tout. Voyez. Donc des gens caractérisés par ceci ou par cela. Mais au-delà de toutes ces choses-là, ce qui devrait nous caractériser, eh bien, comme pour Philémon, l'amour envers le Seigneur et l'amour envers les autres. Alléluia. Voyons, examinons de plus près ce qui a fait le témoignage de Philémon, ce qui a fait sa réputation, ce qui a fait qu'il puisse être connu. Que cela amène l'apôtre bien-aimé du Christ à écrire toute une épître, certes un chapitre, mais néanmoins une épître sur lui. Eh bien, trois choses ont caractérisé la vie de cet homme. D'abord, Paul le souligne, l'amour pour le Seigneur. Alléluia. Il était connu pour l'amour qu'il avait pour son Dieu. Comme vous et moi, il s'est converti un jour. Et il avait compris tout de suite qu'il était important d'aimer son Dieu plus que tout au monde. Ensuite, l'amour du Seigneur l'avait conduit à avoir de l'amour pour les autres frères, alléluia, pour les autres disciples. Donc l'amour de Dieu est l'amour envers son Église, l'amour envers les autres chrétiens. Enfin, ça a été caractérisé par une foi vivante et loyale dans le Seigneur Jésus-Christ. Nous avons parlé pendant quelques dimanches de la foi. Je voudrais aujourd'hui m'attarder uniquement sur les deux caractéristiques essentielles de cet homme, à savoir l'amour pour le Seigneur, mais aussi l'amour pour les autres. Son amour pour le Seigneur Jésus-Christ. Cet homme avait compris l'importance du premier commandement, du commandement le plus grand, je veux dire, à savoir, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de tout ton être. Gloire au Seigneur. Il avait compris cela. Et pour lui, ce commandement n'était pas, une recommandation simplement religieuse. Voyez-vous, pas du tout. Il a pris cette parole, et il a tout fait pour que cette parole puisse trouver sa place en lui. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur. Voilà le plus grand commandement. Et puis ensuite, il y a un deuxième qui vient, et tu aimeras ton prochain comme... Gloire au Seigneur. Voilà, mes amis, le cœur, ce qui fait d'ailleurs le socle de 10 commandements, parce que lorsqu'on aime le Seigneur, on ne peut plus être tenté d'enfreindre les autres commandements. Quand on aime son prochain, on ne va pas envier ni convoiter son épouse ou son mari, oui ou non. C'est le résumé, l'épitomé de la loi. Voyez-vous, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, mais tu aimeras aussi ton prochain. Gloire au Seigneur. Et Philémon avait compris cela. Comment a-t-il aimer son Seigneur? Car comme vous le savez, aimer Dieu, ce n'est pas quelque chose de religieux, ce n'est pas un credo, une dogme. Voyez? Nous aimons Dieu dans la mesure où nous vivons selon ses commandements, dans la mesure où nous marchons avec lui et ce en conformité avec sa parole. Comment a-t-il vécu cet amour pour le Seigneur? Eh bien, pour montrer, ce qui nous montre que le Seigneur était une priorité pour lui, c'est que cet homme n'a pas hésité à mettre à la disposition du Seigneur sa propre maison. L'Église se rassemblait dans la maison de Philémon. Il faut savoir qu'à l'époque, nous sommes au début, à l'époque apostolique, eh bien, les églises n'avaient pas des bâtiments comme c'est le cas aujourd'hui. C'était dans des maisons que les gens se rassemblaient. Voyez, et cet homme avait compris, après avoir rencontré le Seigneur, après avoir compris tout cela, eh bien, par amour pour son Dieu, il n'a pas hésité à ouvrir la porte de sa maison à l'église du Seigneur Jésus. Alléluia. Que Dieu bénisse tous ceux qui un jour ont ouvert la porte de leur maison à une cellule de l'Église, à une Église, et puis plus tard, cette Église a fini par grandir. Ce que vous avez fait, mon frère et ma sœur, n'a pas d'équivalent sur terre. Il n'y a pas de plus grande bénédiction que de bénir le Seigneur lui-même. Et nous bénissons le Seigneur lorsque nous allons le rencontrer dans ce qu'il a de plus cher, dans ce qui le préoccupe plus que tout sur cette terre. Qu'est-ce qui le préoccupe? Eh bien, c'est son Église. Il en est le chef. Il le dit lui-même, « Je bâtirai mon Église ». Le Seigneur a un lien, mes amis, tout particulier avec son Église. Celui qui en est le chef, celui qui en est la tête, celui qui communique la vie à tout le corps que l'Église. Donc, lorsque nous faisons des choses qui vont dans le sens d'aider l'Église, à louer, à adorer le Seigneur, d'aider l'Église à gagner des âmes à Jésus, là, mes amis, nous allons à la rencontre du Seigneur dans ce qu'il a de plus fort, dans ce qu'il a de prioritaire. Je bâtirai mon Église, alléluia. Il a ouvert la porte de sa maison à l'Église de Jésus-Christ. Vous voyez, mes amis, cela va amener les uns et les autres à parler de lui en des termes élogieux. Cela va amener l'apôtre Paul, comme lui-même le dit, j'ai été réconforté, j'ai été touché. Voyez, mon âme a été tranquillisée en apprenant tout ce que tu fais. Le Seigneur, tu aimeras le Seigneur ton Dieu avant toute chose. Non seulement, il avait accueilli l'Église, mais il a mis également ses biens au service de l'Église. Quand on comprend, par exemple, la place qu'occupait la communion dans l'Église primitive, c'est-à-dire le repas fraternel, vous voyez, à chaque fois que les chrétiens se retrouvaient, après avoir loué, adoré le Seigneur, ils prenaient ce qu'on appelle la Sainte Cène. On peut s'imaginer que le bien-aimé qui avait des moyens, eh bien, a eu à pourvoir à cette communion, à ce repas-là. Donc, il a ouvert la porte. Il a mis ses biens matériels. Il a utilisé ses finances pour la gloire de Dieu. Et je suis convaincu que là où il est, eh bien, il s'est dit, mais Seigneur, c'est pas possible, je ne pouvais pas m'imaginer que ce que j'ai fait pourrait m'apporter autant de choses dans ton ciel de gloire. Ce que nous semons pour le Seigneur, nous finissons par le récolter au centuple. Non seulement ici sur terre, mais aussi là-haut. Mon frère et ma sœur, Dieu t'a béni sur le plan matériel, sur le plan financier, c'est une bonne chose. Transforme cela en une semence, afin que cette semence produise du fruit pour sa gloire. Voyez, il a utilisé sa maison. Au lieu d'en faire une maison de passe, un lieu où tous les escrocs de la ville de Colosse pouvaient se retrouver, voir comment ils pouvaient escroquer l'empire de Rome, etc., lui en a fait un lieu où des gens appartenant à différentes couches sociales pouvaient venir louer, adorer le Seigneur, mais aussi les inconvertis pouvaient trouver le Seigneur là, dans sa maison. Quelle grâce! Mes amis, personne ne peut dire que je n'ai rien reçu de la part de Dieu. Voyez, nous avons tous reçu quelque chose. La vie que nous avons, c'est d'ailleurs le plus grand cadeau qui soit. Alors mettons cette vie au service du Seigneur. Abandonnons-la entre ses mains, qu'il puisse en faire usage comme bon le semble. Gloire à Dieu. Donc, il a mis à sa disposition sa propre maison. À la disposition du Seigneur, je veux dire, sa propre maison, qui a reçu, accueilli l'Église, permettant ainsi aux bien-aimés de Colosse d'aller louer, adorer le Seigneur, d'avoir un lieu où ils pouvaient aller s'assembler, adorer le Seigneur, prendre la Sainte Cène et puis avancer, gloire au Seigneur. Et cet amour-là, pour le Seigneur, mes amis, était un amour inspiré, un amour généré par l'Esprit de Dieu. C'est le même Paul qui écrira aux Colossiens, et Philémon était de Colosse, pour nous dire, que cet amour-là, Colossiens 1, 7 à 8, eh bien, a sa source, a sa racine dans le Saint-Esprit. Alléluia. Mes amis, pour ceux qui étaient à notre séminaire, nous avons parlé des cinq armes que le Seigneur met à notre disposition dans le combat dans lequel nous sommes engagés. Et parmi ces armes, eh bien, nous avons souligné une arme particulière, à savoir le fruit de l'Esprit. N'est-ce pas? Et le fruit de l'Esprit se manifeste comment? Par l'amour, par la joie, par la tempérance, par la fidélité, par la bonté, par la douceur, etc. Donc, l'amour, le véritable amour dont nous avons besoin pour aimer le Seigneur, pour aimer les autres, cet amour-là ne peut pas être engendré par nos propres efforts personnels. C'est un amour que le Saint-Esprit suscite en nous, puisque l'amour fait partie du fruit de l'Esprit. Alléluia. Et quand nous manifestons l'amour, c'est en cela que l'amour est une arme. Dans un monde rongé, gangréné par la haine, eh bien, lorsque nous arrivons avec l'amour, nous faisons reculer la haine, oui ou non? Lorsque nous répandons l'amour, eh bien, nous permettons aux familles de se réconcilier. Lorsque nous répandons l'amour, eh bien, nous contribuons, mes amis, à faire reculer la pauvreté, puisque l'amour nous amène à partager même le peu que nous avons. Gloire à Dieu. Donc, un amour suscité par le Saint-Esprit, celui qui nous rend capable d'aimer Jésus. Vous ne pouvez pas aimer Jésus simplement parce que vous le souhaitez. Bon, je vais aimer Jésus, je vais aimer Jésus, je vais aimer... Gloire à Dieu, j'ai l'amour de Jésus. Entre-temps, on mène une vie aux antipodes de ses commandements. Pas du tout. L'amour de Jésus est suscité en nous par le Saint-Esprit. Et c'est là toute l'importance de mener une vie d'entière soumission au Seigneur, afin que le Saint-Esprit puisse générer cet amour dans chacun de nous. Gloire à Dieu. Nous aimons Jésus dans la mesure où nous demeurons dans sa parole. Or, comment demeurer dans sa parole si le Saint-Esprit n'est pas avec nous? C'est le Saint-Esprit qui nous rend capables. Vous voyez qu'en fin de compte, eh bien, tout converge vers le Saint-Esprit. Celui qui est au cœur de notre relation avec le Seigneur. Celui qui rend effective notre relation avec le Seigneur. Voilà pourquoi Jésus a dit, je m'en vais, mais je ne vous laisserai pas orphelin. Je vous enverrai un autre paraclétos, un autre consolateur, un autre défenseur, un autre avocat. Il viendra, il prendra ce qui est à moi et vous le donnera. Alléluia. Il vous conduira. Il vous conduira, en d'autres mots, il vous rendra capable de demeurer dans ma parole. Et en demeurant dans sa parole, alors nous lui manifesterons notre amour. Car l'amour de Dieu, ou l'amour pour Dieu, consiste à observer ses commandements. Gloire à Dieu. Et lui, Philémon, ce bien-aimé, eh bien, avait compris tout cela, et il a mené une vie qui manifestait une grande générosité envers le Seigneur. Il a compris la nécessité, non seulement de consacrer, eh bien, sa tête au Seigneur, mais aussi son cœur. Bref, de consacrer tout son être, mais aussi de consacrer tous ses biens à Dieu. Mes amis, nous devrions considérer ce que nous avons sur le plan financier, sur le plan matériel, comme une occasion d'investir dans le royaume de Dieu. Nous serons dans le royaume de Dieu ce que nous aurons été sur cette terre. Si nous sommes de ceux qui gardent tout le temps la main fermée, eh bien, comment voulez-vous qu'un semeur puisse semer et s'attendre à une grande moisson s'il garde la graine dans sa main et une main fermée, voyez-vous? Et souvent, nous avons tout le temps une main fermée. Ou alors, lorsque nous essayons de l'ouvrir, c'est un petit doigt. Un peu de poudre, dit, tiens. Pour le Seigneur, on ne devrait pas compter. Voyez-vous, tôt ou tard, nous nous réjouirons en sa présence. Ce que nous gardons pour nous-mêmes, nous finirons par le perdre. C'est comme ça que certains ayant été attachés à leurs biens matériels tout au long de leur passage sur terre, eh bien, lorsque le moment est arrivé de quitter cette terre, on les a vus s'agiter, se tourmenter. Vous voyez ? Non seulement ils craignent là où ils vont, mais ils se disent, mais finalement, tout ça, j'ai travaillé, je me suis cassé en quatre, j'ai versé autant de sueur, autant de sacrifices, j'ai gagné tout ça, mes comptes dans, mon compte dans telle banque, mon compte dans telle autre banque, maintenant je m'en vais, qui va profiter de tout ça? Eh oui, vanité de vanité. Et quelquefois, c'est même un enfant qui n'a pas souffert un petit bandit. Oui, qui débarque, il hérite de tout. Et la première chose qu'il fait, il s'achète un décapotable. C'est tout. Toi, là où tu pars main vide, nu comme un ver de terre. Et quand tu vas de l'autre côté, c'est trop tard. Tu regardes en arrière, il n'y a plus rien, puisque tu es passé dans l'autre dimension. Et quand tu regardes devant, ben, l'autre que tu as servi t'attend. Viens, Yaka. Viens. On a dansé ensemble, non? On a bu ensemble, on a volé, on a fait tout ça. Mes amis, pendant que nous en avons encore l'occasion, ne nous lassons pas à faire le bien. Et surtout, envers le Seigneur. Ce que nous donnons au Seigneur, et bientôt ou tard, nous finirons par le récolter. Ne dis pas, oh là là, je me suis trompé. J'avais prévu de mettre 100 dollars, mais j'ai mis 500 au Dieu. Rends grâce simplement à Dieu. Alléluia. Tu l'as fait. Ne reviens. Maintenant, si tu viens réclamer, nous sommes une église. Nous allons te donner, mais ça sera difficile de savoir si c'est vraiment 500 dollars que tu as mis, ou c'est simplement une manière. Enfin, bref, il ne faut jamais regretter tout ce qu'on donne au Seigneur. Alléluia. Non seulement les biens matériels, même notre vie, notre jeunesse. Voyez, vous les jeunes, profitez de votre occasion. Donnez votre jeunesse au Seigneur et un jour vous vous réjouirez. Alléluia. Même s'il vous arrive, de vous marier en retard, ce n'est pas un problème. Il y en a qui se sont précipités et que quelques temps plus tard, ils ont divorcé. Autant attendre et faire le mariage au temps opportun, un bon mariage avec l'homme ou la femme de sa vie, et puis commencer la vie à deux, tout doucement, jusqu'au retour du Seigneur, ou jusqu'à ce que la mort vous sépare. Plutôt que de précipiter parce qu'on est rongé par la convoitise, on croit qu'en dehors de cette fille, ben, il n'y a pas d'autre fille. C'est elle ou la mort. Vous voyez, il y en a qui pensent comme ça, aïe, 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 j'ai jamais vu. J'ai jamais vu. T'as vu comment elle sourit? Jamais. Jamais. Oh Seigneur, moi, il me faut absolument celle-là. Mais tu n'as pas encore fait tout le tour de Kin. Même dans la Tchangola, il y a des sourires 10 fois mieux que son sourire. Alléluia. Donc cet homme a aimé le Seigneur. Et nous voyons par les actes qu'il a posés. Et l'apôtre Paul le reconnaît. Voyez, Paul le reconnaît. Il dit, j'entends parler de l'amour et de la foi dont tu fais preuve envers le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. N'hésitez pas. Je rends grâce à Dieu. Il y a un frère qui nous a écrit avec sa femme parce qu'ils sont prêts à mettre leur maison à la disposition de notre église ici pour qu'il y ait une cellule. Voyez. Gloire à Dieu. Même si c'était un ancien Ganda, il n'y a pas de problème. Nous viendrons et nous prêcherons la parole de Dieu. Gloire au Seigneur. Donc, son amour pour le Seigneur Jésus-Christ, qui passe par un amour pour sa parole, par une vie marquée par l'obéissance à sa parole, amour que le Saint-Esprit seul peut susciter, peut créer en nous. Et cet amour pour Jésus va avoir des répercussions sur le plan horizontal. Puisque, comme vous le savez, j'ai déjà eu à le dire, notre existence s'articule autour de deux axes. Il y a d'abord l'axe vertical. Vous voyez, c'est notre rapport, notre relation avec Dieu, mais également sur l'axe horizontal. Eh bien, c'est notre interaction avec notre milieu, avec nos proches. Et cet amour de Dieu va avoir des répercussions sur les autres. Et ça, c'est son deuxième amour, l'amour pour les chrétiens. Il s'agit donc de l'amour fraternel, de l'amour altruiste, qui est une marque distinctive du vrai disciple de Jésus-Christ. Gloire au Seigneur. Car, dit l'apôtre, j'ai eu en effet beaucoup de joie et de consolation à cause de ton amour, car par toi, frère, le cœur des saints a été tranquillisé. Alléluia. Le cœur des disciples a été tranquillisé. Jésus a dit, mes amis, à ceci, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples si vous vous aimez les uns les autres. À l'amour que vous aurez les uns vers les autres, alors tous vous reconnaîtront que vous m'appartenez. Vous voyez, mes amis, voulons-nous être reconnus comme étant disciples de Jésus? Eh bien, mettons-nous à nous aimer simplement. Alléluia. C'est l'amour qui est notre véritable uniforme. C'est l'amour qui est notre véritable tenue. Et c'est par cette tenue, par cet uniforme, que nous devrions être reconnus. Et comme pour l'amour pour le Seigneur, eh bien l'amour de Philémon pour les autres n'a pas été un amour théorique, mais un amour qui sera des actes concrets. Comme lui-même le dit, comme Paul le dit, j'ai été tranquillisé, j'ai été réconforté d'apprendre que tu es toujours là pour tranquilliser les cœurs de gens, pour donner à boire à l'âme assoiffée, pour donner à manger au ventre creux, pour soutenir telle ou telle autre personne, parce que tu es nos financiers. Philémon excellait dans tout cela, voyez. Il ne s'agit pas simplement de dire frères et sœurs, mais nous devrions vivre véritablement cette notion de frères et sœurs. À force de l'utiliser, ça ne veut plus rien dire. Voyez? On l'appelle frère, mais on est prêt à le poignarder dans le dos. On l'appelle sœur, mais on ne se réjouit pas lorsqu'elle réussit, lorsqu'elle connaît une promotion. Voyez? Alors que tout le monde se réjouit, alors que tout le monde rend gloire à Dieu parce que tel frère vient de connaître une promotion, toi tu es là, et lorsqu'on te regarde, tu fais semblant de sourire, ah, gloire à Dieu. Mais en réalité, dans ton cœur, tu n'es pas content. Parce que tu aurais aimé que ça soit toi. Ça, c'est l'égoïsme. Voyez. Aujourd'hui, c'est sa saison. Attends la tienne. Le moment venu, toi aussi, Dieu te visitera. Alors réjouis-toi avec ceux qui se réjouissent. Pleure avec ceux qui pleurent, mais ne sois pas là pour envier, pour jalouser les gens, voyez, ne jamais être content. Ceux qui ne sont pas contents, ceux qui haïssent, les gens se rendent un très très mauvais service. 1 Jean 3,18 nous le dit, « Petits enfants, n'aimons pas en parole, ni avec la langue, mais en action et en vérité. » Voilà le vrai amour. En action, c'est par des actes concrets, mais aussi dans la vérité. L'amour va toujours avec la vérité, parce que celui qui est amour, à savoir Dieu, il est aussi vérité, oui ou non. Jésus a dit, je suis le chemin, je suis la vie, je suis la vérité. Voyez. On ne peut pas aimer dans le mensonge. Non. Voyez. Mais évidemment, dans notre monde où il y a la confusion, où chacun a sa conception de l'amour, eh bien, les gens y vont n'importe comment, ils mentent, ils volent, et après ils disent, oui, nous nous aimons les uns les autres. Philémon, aimez les frères et sœurs, ce frère fortuné, comment se traduisait son amour? Eh bien, nous l'avons vu. Il n'a pas hésité à ouvrir sa maison aux frères et sœurs, d'abord pour le culte et pour d'autres réunions. L'église à cette époque était une église pentecôtiste. Certainement, elle organisait des évangélisations et pour cela il fallait prier. Et la maison de Philémon était toujours ouverte. Les gens venaient, ils se préparaient et puis ils allaient faire le porte-à-porte. Je me souviens dans Il y a plus de 20 ans, dans les années 80, nous étions très actifs au niveau de l'évangélisation ici à la Borne. Et nous avions organisé une campagne, une croisade d'évangélisation à Mama Mobutu. Et une famille de l'Église, qui est très active jusqu'aujourd'hui, avait accepté de nous accueillir. Nous nous trouvions dans cette famille. Nous avions des moments de prière. C'était notre quartier général. Pendant quelques jours, nous avions établi notre quartier général dans cette famille-là. Pourtant, c'est une famille qui avait des enfants, en bas âge. Mais malgré tout cela, ils avaient consenti à aider l'Église. Oh, gloire au Seigneur. Ils nous avaient ouvert la porte. Et Dieu seul sait combien d'âmes avaient été gagnées durant cette semaine. Nous avions, pendant plusieurs jours, fait le porte-à-porte. Nous allions de maison à maison, là, la cité Mama Mobutu, à l'époque. Tout au début, hein. On parlait du Seigneur et puis on invitait les gens. Et le dernier jour, on avait organisé une campagne plein air. Avec chapiteau, avec podium, instrument. Le frère, le pasteur Land, je me souviens, il avait animé, le pasteur Veil avait dirigé, et moi j'avais prêché la parole. J'ai encore des photos des gens qui avaient été touchés par la parole de Dieu, des gens qui avaient été gagnés. Après cette action, beaucoup de gens sont venus à l'église. Vous êtes peut-être là, ou peut-être vos enfants, mais il y avait une famille qui nous avait permis, qui nous avait accueillis, qui n'avait pas hésité à nous partager un verre d'eau, qui n'avait pas hésité à mettre du temps à part pour que nous ayons l'occasion de nous préparer pour cette action d'évangélisation. Vous voyez, c'est l'amour pour les autres, l'amour pour l'Église de Jésus-Christ, une gloire au Seigneur. Mais cet amour de Philémon est aussi un amour qui le préparait à accueillir les autres. L'apôtre Paul sollicite, verset 22, « En même temps, dit-il à Philémon, prépare-moi un logement, car j'espère vous être rendu grâce à vos prières. » Prépare-moi un logement. Si Paul avait su que le frère Philémon, tout en étant frère, était un maniaque, ouais, un homme égoïste, qui n'était pas fraternel du tout, pensez-vous qu'il lui aurait demandé de lui préparer une chambre? Pas du tout. Vous voyez, mes amis, il savait. Il lui a demandé de lui préparer un logement, l'hospitalité. Beaucoup, en ayant logé les gens, nous dit la parole, ont logé des anges sans le savoir. Vous savez, il y a beaucoup de choses, il y a des mystères dans la vie. Le petit garçon qui t'étend la main, mal vêtu, un enfant de la rue, tu ne sais pas, c'est peut-être un ange qui vient, hein, qui est là, sans le savoir. Hein. Ouais. Toi, tu fais simplement un geste, et puis un jour, ce geste porte le fruit. Vous voyez, l'amour pour les autres, très rapidement avant de terminer. Il était prêt à réconforter le cœur des autres chrétiens. Comme l'apôtre dit, le cœur des saints a été tranquillisé. Comment? Mais en les aidant, oui ou non? Les gens étaient agités à cause des problèmes, à cause des besoins dans lesquels ils se trouvaient. Mais quand ils rencontraient le frère Philémon, eh bien, il était là et il les tranquillisait leur cœur en donnant une petite enveloppe, en donnant un petit rien, voyez. Il a été un tranquillisant pour les autres frères. Alléluia. Vous connaissez les effets d'un tranquillisant en pharmacologie. Vous êtes agité, de nuit agité, le médecin vous prescrit un tranquillisant. Quelque chose qui vous tranquillise. Et lui a été un tranquillisant pour tous ceux qui étaient dans le besoin. Mes amis, nous ne devons jamais nous lasser de faire le bien. Cela sera une démonstration de notre amour envers les autres. La Bible, et le Nouveau Testament en particulier, remplit de témoignages des hommes et des femmes qui avait appris non seulement à prier, mais également à être actif dans le domaine de la générosité, dans le domaine de l'amour altruiste. C'est le cas, par exemple, de Tabitha, cette dame qui faisait des manteaux, beaucoup d'œuvres bonnes. Voyez, cette femme cousait des manteaux et puis elle les donnait aux veuves, aux gens qui n'avaient pas de moyens. Très active, cette femme, dans les œuvres, des œuvres bonnes. Et puis un jour, cette femme, disciple du Seigneur, est emportée par la mort. Les gens pleuraient. Les gens pleuraient. Pour eux, c'était une grande perte. Mais quand on sait que lorsqu'un chrétien meurt, il va où? Auprès du Seigneur, non? Donc Tabitha, en mourant, elle est partie puisqu'elle était disciple. Elle est allée rejoindre son maître. Donc pour elle, c'était ça l'idéal. Mourir et aller, comme Paul le dira plus tard. Je souhaiterais m'en aller et être avec le Seigneur. Car pour moi, c'est tout ce qu'il y a de mieux. C'est tout ce qu'il y a de meilleur. Mais puisqu'il faut que je vous encourage, je vous instruise dans la foi, il est donc préférable que je reste dans ce corps. Mais Tabitha va être ramenée à la vie par Pierre. Qui ont fait venir Pierre? Ce sont les mêmes veuves qu'elle avait aidées. Alléluia. Ce sont les œuvres qu'elle avait posées, les bonnes œuvres, qui ont parlé en sa faveur. Quand Pierre est arrivé, qui n'était pas loin, il était à Joppé, quand il est à Walid, quand il est arrivé, eh bien, ils lui ont dit, voilà, elle est là, elle est décédée, c'est une sœur en Christ engagée. D'ailleurs, regardez, on voit toutes ces femmes veuves pleurant, fatiguées par les larmes, etc., par les pleurs, elles montrent tout ce qu'elles avaient reçu de la part de cette femme. Et Pierre va monter là où se trouvait la dépouille de Tabitha, et Pierre va prier avec foi, et Tabitha va revenir à la vie. Et elle va continuer ses bonnes œuvres. Dites-moi, qu'est-ce qui a parlé en sa faveur? Les œuvres qu'elle faisait. Ne nous lassons pas, les œuvres nous suivront. Alléluia. Continuons à faire du bien. Corneille, c'est la même chose, et je terminerai là, au chapitre 10. Tabitha, c'est au chapitre 9 des Actes. Hein. Corneille, au chapitre 10, eh ben, c'était un craignant Dieu qui priait, mais qui était aussi caractérisé par une vie de générosité envers les autres. Il faisait beaucoup d'aumônes jusqu'au jour où le Seigneur lui envoie un ange pour le rassurer que ses prières avaient été entendues par le Seigneur. Et l'ange d'ajouter, tes prières et tes aumônes se sont dressées en mémorial devant Dieu. Un mémorial, c'est quelque chose qui fait appel au souvenir. Oui ou non? On a un mémorial, par exemple, qui est érigé pour les soldats, nos soldats qui sont morts, ou alors nos compatriotes qui sont morts durant l'indépendance, etc. Il y a des lieux comme ça de mémoire, n'est-ce pas? Eh bien, nos biens, tout ce que nous faisons, se dresse devant Dieu. Alléluia. Et lui, le fidèle, un jour, il regardera et dit, tiens, 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 et puis hop. Alors, mon frère et ma sœur, sois comme Philémon. N'aie pas un cœur endurci, une main toujours fermée, mais aime ton Dieu en vivant selon sa parole, mais aime également ton prochain, aime ton Église en t'impliquant dans son épanouissement physique, dans son épanouissement spirituel, dans son épanouissement matériel. Nous allons incliner nos têtes dans la prière. Seigneur, tu nous appelles à t'aimer de tout notre cœur. Tu nous appelles, Seigneur, à mener une vie qui soit caractérisée par un amour inconditionnel, Seigneur, vis-à-vis de toi, un amour profond qui passe, Seigneur, par une vie marquée par l'obéissance à ta parole. Mais tu nous appelles également, Seigneur, à être caractérisés par l'amour fraternel, l'amour envers les autres, un amour, Seigneur, qui s'exprime de manière concrète, un amour qui se traduit par des gestes clairs et nets, des gestes concrets. Ô Dieu, fais de nous, Seigneur, des hommes et des femmes qui t'aiment véritablement et qui aiment ton Église et qui aiment les autres. Apprends-nous, Seigneur, à aller de l'avant dans la générosité, dans l'hospitalité. Seigneur, aide-nous à être de solution aux problèmes des autres. Oh, merci pour tout. Merci pour ta parole. Que l'amour nous caractérise et nous distingue, Seigneur, tout au long de notre marche avec toi.